L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêt à aller dans la parole de Dieu maintenant? Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez venir avec moi dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur vous aime, n'est-ce pas? Vous le savez? Amen. Le Seigneur nous aime. Et vous savez, son amour pour nous est éternel. Et Dieu nous aime tellement qu'il veut nous donner des paroles. Il veut nous partager des messages pour qu'on puisse vivre le maximum. Gloire à Dieu. Le maximum possible. Amen. Gloire à Dieu. On va juste prier. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On veut te louer, Seigneur Dieu. On veut t'adorer, Seigneur. On veut te glorifier dans cette maison. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci parce que tu es vivant. Oh, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, nous te donnons ce temps. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de venir aujourd'hui nous révéler des choses nouvelles. On veut aller plus loin avec toi, dans les fleuves de ton amour, de ta présence. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour les choses que tu nous révèles. Merci, Seigneur Dieu, parce que chaque jour avec toi, c'est excitant. Il n'y a aucune journée plate et dolle, mais avec toi, Seigneur, c'est excitant. Parce que tu te révèles à nous, tu nous révèles des trésors. Seigneur, comme nous t'aimons. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce temps que nous pouvons juste être là autour de ta parole pour recevoir de toi. Mais aussi, on veut célébrer la présence de ton Esprit qui est ici. Esprit de Dieu, remplis-moi, Seigneur Dieu, de tes paroles. Que chaque parole qui va sortir, Seigneur Dieu, que ces paroles puissent toucher les cœurs. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, nous t'aimons, nous te glorifions. Sans toi, nous sommes rien, absolument rien. Mais avec toi, Seigneur Dieu, tu as dit que nous ferons des exploits. Gloire à toi. Merci pour les exploits qu'on va vivre ensemble au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hier soir, après ma préparation du message, j'avais à cœur d'écouter des témoignages sur la crainte de l'Éternel. Et puis, j'écoutais le témoignage d'une sœur, Carol Arnott, qui racontait qu'elle avait eu une vision de la part de Dieu, en fait, plutôt un songe. Et puis, dans son songe, elle a vu plusieurs choses. Je vais juste résumer une chose importante. C'est que dans son songe, elle a vu qu'il y avait un grand nuage de la gloire de Dieu. Un grand nuage de la gloire de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler du nuage Shekinah, ou Shekinah en français peut-être? Un grand nuage de la gloire de Dieu. Et puis ce nuage-là est allé dans une église en Californie, à Bethel, une église que vous connaissez peut-être, Bethel Church, avec le pasteur Bill Johnson. Et puis ce nuage-là est venu s'installer dans l'église. Le nuage de la présence de Dieu. Ça, c'est quand on a tellement loué Dieu, on est tellement en adoration, tellement en amour avec notre Dieu, que Dieu nous fait la grâce de nous visiter d'une façon tangible. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a des gens qui ne sont pas intéressés de vivre la gloire de Dieu. Mais moi, je suis intéressé. Êtes-vous intéressé? Gloire à Dieu. Et puis, le pasteur Bill Johnson a dit... Ça s'est retrouvé sur Internet. C'est pour ça qu'on est obligé d'en parler, parce que de nos jours, les gens ont tous des téléphones. Et puis les gens filment. Mais sinon, j'en aurais pas parlé, parce que l'objectif, c'était pas de faire notre promotion ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de sacré qu'on a vécu entre nous, dans l'Église. Mais quand les gens sont là avec leur téléphone, bien, ils étaient obligés d'en parler publiquement et dire oui, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une façon tangible. Le nuage de la gloire de Dieu. Et j'ai des amis en Alberta aussi que dans leur maison, parce qu'ils passaient tellement de temps dans la prière, que le nuage se présentait dans leur maison et puis il y avait comme la mezzanine, ils ne pouvaient pas voir en bas parce que le nuage était tellement intense. Vous savez, on sert un Dieu surnaturel, un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Notre Dieu est vivant et puis quand on le loue, Dieu nous entend. Savez-vous ça? Quand on loue Dieu, on l'exalte, Dieu nous entend. Et les armées célestes nous entendent et puis ils peuvent se joindre à nous également et le louer, l'adorer. Et quand on loue Dieu, le ciel descend. Gloire à Dieu! Le ciel descend parmi nous. Amen. Et puis moi, je veux vivre le ciel sur la terre. Oui, Un jour, je vais être au ciel éternellement, mais avant, moi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je ne veux pas attendre jusqu'à quand je vais mourir ou si, quand je vais être enlevé. Je veux vivre le ciel aujourd'hui. Gloire à Dieu! Voulez-vous vivre le ciel aujourd'hui? Amen! Mais on peut choisir de vivre le ciel aujourd'hui. Mais comment faire? Bien, on va voir des choses aujourd'hui. Le sujet de ce matin, c'est la clé de la sagesse. Et pour revenir au rêve de la sœur, elle a vu ce nuage. Et dans ce nuage-là, il y a des gens qui courent vers le nuage parce qu'ils veulent vivre la gloire de Dieu. Mais il y en a d'autres qui courent pour s'éloigner du nuage. C'est spécial, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent plus de Dieu, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas plus de Dieu. Et puis on peut juste se poser la question, qui êtes-vous aujourd'hui? Courez-vous vers le nuage de la gloire de Dieu ou fuyez-vous le nuage? Et une des choses, comme j'écoutais ce témoignage-là, je pensais justement comment Dieu, des fois, nous envoie des messagers, il nous donne des paroles que la chair ne veut pas entendre. Que la chair dit « Non, je ne veux pas entendre ça. » La chair est contre vous. Comprenez ceci. Votre chair est contre votre esprit. Votre chair est contre votre esprit. Vous avez besoin de discerner ça aujourd'hui. Parce que quand votre chair dit « Non, je ne veux pas entendre ça. » Votre esprit dit « Moi, je veux l'entendre. » Là, c'est à votre esprit qui doit dire à votre chair « Toi, chair, là, tais-toi. » Tais-toi, c'est une belle façon de le dire. Tais-toi, chair. Parce que mon esprit veut entendre ça. Mais si la chair domine sur l'esprit, c'est une mauvaise chose. Et je suis convaincu que dans quelques temps, les gens qui ont écouté la chair ou qui se sont soumis à la chair vont regretter de ne pas avoir saisi certains messages que l'Esprit de Dieu est en train de donner à l'Église. Je ne parle pas juste l'Église ici, je parle l'Église avec un grand E. En ce moment, il y a un message qui circule le globe et la chair résiste ce message. La chair ne veut rien savoir de ce message-là, mais l'Esprit dit « Oui, Seigneur, je veux ce message. » Et ça peut même créer de la colère dans votre chair. Mais gloire à Dieu, quand votre chair est en colère, c'est un bon signe. Amen. C'est un très bon signe parce que quand l'esprit marche dans la victoire et domine sur la chair, c'est là où vous savez, vous allez à un autre niveau avec Dieu. Moi, je m'en vais avec le Seigneur à un autre niveau et vous pouvez venir avec moi, avec le Seigneur qui nous amène à un autre niveau. Et savez-vous, l'autre niveau, c'est tellement haut que le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 qu'il va venir chercher son Église. Ça, c'est le meilleur des niveaux. Il s'en vient chercher son Église. Gloire à Dieu. Moi, je crois encore la parole de Dieu à ce niveau-là. Même s'il y en a qui ne croient plus là-dedans, là, c'est trop démodé. Alléluia, je suis tellement démodé, je crois encore la Bible. Restons démodés au nom de Jésus. Mais Jésus s'en vient chercher son Église. Il s'en vient chercher son épouse qui s'est préparée, nous le disons dans l'Apocalypse. Donc, l'épouse qui s'est préparée, mais l'épouse qui s'est préparée reçoit les messages du roi des rois. Si le roi des rois dit « Moi, je veux que mon épouse baigne pendant 6 mois dans des parfums, comme Esther, par exemple, elle va rester 6 mois dans les parfums. » Amen. Ça, c'est les directives du roi. Mais un message comme ce matin, c'est encore dans la préparation de l'épouse. La préparation de l'épouse, un message qui nous appelle à vivre dans la sagesse divine. Et on peut dire en quoi ça nous concerne? En quoi ça concerne l'épouse de Christ, être dans la sagesse? Vous allez comprendre très prochainement. On va commencer avec un verset. Mais premièrement, je vais vous lire un passage prophétique, un passage qui nous parlait du Seigneur Jésus. C'est un passage messianique, si on veut. Dans Ésaïe, chapitre 11, je vais lire le verset 2. Il est écrit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Croyez-vous que l'Esprit de Dieu reposait sur le Seigneur Jésus? Donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Dans la Bible du Sommeur, ça nous dit « Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur un oui-dire. Les hommes jugent sur l'apparence. Les hommes jugent toujours sur l'apparence, mais Jésus, lui, ne jugea pas selon l'apparence. Mais il respirait la crainte de l'Éternel. Son plaisir, c'était d'obéir à l'Éternel. C'est merveilleux. Il ne prononcera pas sur un oui dire. Ce que je trouve merveilleux, concernant juste ce songe-là que la sœur a eu, Dieu lui a dit, tu vas attendre. Parce que quand elle a reçu ce message-là, elle croyait le partager peut-être le dimanche matin. Dieu lui a dit, non, t'attends. C'était un genre de test d'obéissance. Et puis, c'est juste 2 ans plus tard environ que Dieu lui a dit, c'est ce matin que tu vas révéler ce songe-là. Mais tout ça pour dire, plus tard, certaines personnes, des gens qui étaient dans nos églises, qui fréquentaient le monde chrétien, qui venaient dans nos assemblées, qui vont dire, moi, je ne voulais rien entendre concernant ce message-là. Je ne voulais pas l'entendre. J'ai manqué le bateau. L'enlèvement a eu lieu. Peut-être ma femme et mes enfants sont partis et moi, je suis là. Je n'ai pas voulu entendre ce message-là. Mais il y a une compagnie, il y a un regroupement de gens qui disent, je veux entendre ce message. Ces gens-là, l'épouse de Christ ne regrettera rien. N'est-ce pas merveilleux? L'épouse de Christ ne pourra jamais regretter, dire non, parce que l'épouse de Christ va être ravie et dans la gloire. Dieu est en train de préparer son épouse. Il est en train de la préparer pour qu'elle soit glorieuse. Amen. Mais ne jugez pas selon les apparences. Jugez selon l'onction du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est tellement important. Si vous vous fiez à l'apparence, vous pouvez être séduit. Mais fiez-vous à la voix de l'Éternel, à l'onction du Saint-Esprit qui veut vous diriger et qui veut préparer son épouse. Et en ce moment, partout à travers le monde, ce message circule. Et je trouve ça intéressant parce que j'apprends après coup, comme je suis en train de me préparer, j'entends dire des choses, que l'Esprit de Dieu est en train de faire des choses partout. Vous savez, l'Esprit de Dieu travaille partout, tous ceux qui veulent l'entendre. Et ce matin, l'Esprit de Dieu vous demande, voulez-vous entendre cette chose-là, ce message? Mais gloire à Dieu! Donc, cette prophétie messianique nous parle du Seigneur Jésus. Je vais relire encore parce que moi, j'aime ça, me stationner, me garer une place, comme on dirait les Français, là, pour qu'on puisse vraiment digérer. Je vais relire. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Jésus était très intelligent, le croyez-vous? Aimeriez-vous être intelligent comme le Seigneur Jésus? Aimeriez-vous ça, avoir la sagesse du Seigneur Jésus? Bien, c'est disponible pour vous. Gloire à Dieu, être sage. Les gens dans ce monde s'imaginent être sages. Ils vont écrire des textes, des livres, toutes sortes d'ouvrages, et puis ils vont s'imaginer être très profond, très profond. C'est drôle, j'étais à l'université, et puis j'avais des profs qui enseignaient, entre autres, la théologie. J'ai fait des cours en religion, et puis j'ai été exposé aux enseignements sur l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ce que vous voulez. Et puis, le professeur enseignait toujours avec respect concernant les religions du monde. Mais quand il arrivait au christianisme, quand il arrivait à Jésus, il se moquait. Il se moquait et puis il voulait humilier tous ceux qui croyaient. En fait, je ne sais pas si j'étais le seul dans la classe qui croyait, mais je sais qu'il était très bon à essayer de nous mépriser. On se dit, mais pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Pourquoi quelqu'un voudrait diminuer Jésus et élever les autres? Parce que c'est ça, le diable n'aime pas le vrai. Gloire à Dieu. Bon, tout ça pour vous dire, c'est que les gens de ce monde s'imaginent être sages, mais ils rejettent celui qui peut les rendre sages. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et je me souviens, j'étais dans mes cours et j'écoutais le professeur, un intellectuel, super intelligent, semblerait-il, selon le monde. Mais en fait, je l'écoutais et j'entendais le Seigneur me dire, il n'y a même pas le commencement de la sagesse. Cet homme est un insensé parce qu'il méprise le Dieu de la Bible. Un insensé, mais impressionnant selon les apparences du monde. Parce qu'il y a plusieurs titres et plusieurs lettres après son nom. Mais cet homme-là est un insensé selon Dieu. Alléluia! Peut-être que vous n'avez pas de lettre après votre nom, mais vous le dépassez en intelligence parce que vous avez une relation avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, en parlant de Jésus, une parole prophétique, il respirera la crainte de l'Éternel.
Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Ça, c'est vraiment merveilleux quand on peut voir notre Seigneur Jésus qui nous a servi de modèle. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, c'était vraiment important. Ça faisait partie de sa personne. Il marchait dans cette crainte de l'Éternel. Mais j'entends ma femme me dire, mais chérie, définis la crainte de l'Éternel. Parce que les gens vont s'imaginer que je suis en train de prêcher qu'on devrait avoir peur de Dieu. On ne devrait pas avoir peur de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, on parle d'une révérence pour Dieu. Avoir cette révérence pour Dieu. Alléluia. C'est un respect profond. On respecte le Seigneur Jésus. Donc, on a lu ce texte-là. On va aller ensemble dans Proverbes chapitre 4 maintenant. Je vous ai cité un verset déjà. Proverbes chapitre 4. Commençons au 7e verset. Je vais vous lire dans la Bible du Semeur. Ça dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. » Dieu nous appelle à rechercher la sagesse divine. Mais remarquez, ça nous dit « avec tout ce que tu possèdes ». La chose la plus importante pour nous, la chose la plus importante que vous avez besoin dans votre vie, c'est de rechercher la sagesse de Dieu. La chose la plus importante, en anglais, ça dit « wisdom is the principal thing », la chose principale, la chose la plus importante. Si vous avez la sagesse de Dieu, peu importe les circonstances de la vie, si vous avez la sagesse de Dieu, vous êtes gagnant. Amen. La sagesse divine, comme le Seigneur Jésus, Dieu vous appelle à être sage. Et vous dites, je dois m'inscrire à quel cours là pour devenir sage? Bien, vous êtes à bonne place. La sagesse divine, OK, on va voir ce matin comment on peut y arriver. Ça dit, exalte-la et elle t'élèvera. Si vous exaltez la sagesse, elle vous élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Ça veut dire que vous allez aimer la sagesse de Dieu. On embrasse ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Oui. Peut-être pas vous, là, mais chez nous, c'est comme ça que ça marche. Tiens-la en haute estime dans Bible de Sommeur. Tiens la sagesse de Dieu en haute estime et elle t'élèvera. Pourquoi vouloir être élevé? Pour glorifier Dieu davantage. Parce que comme nous sommes élevés, nous glorifions Dieu davantage dans nos vies. Le plus que Dieu vous donne d'honneur, c'est pour honorer son nom encore plus parce que vous êtes un représentant du Seigneur Jésus. Amen. Partout où vous allez, vous représentez le Seigneur Jésus. Donc, quand vous êtes élevé, vous élevez le nom de Jésus. Parce que si les gens vous honorent, vous faites toujours dire, « Oh, mais gloire à Dieu. » Parce qu'en moi-même, je ne suis rien. À chaque fois, les gens vous acclament. Vous dites, « Ah, tu es telle personne de tel ministère et tu fais ceci, tu fais cela. » Vous dites toujours, « Ah, mais c'est gloire à Dieu. » Quand Dieu vous élève, c'est pour que son nom soit élevé encore plus. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous dites, « Oui, c'est vrai, mais c'est à cause de Jésus. Il est ma source. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. » Toujours, toujours, on lui donne la gloire. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. En honneur. Donc, gloire à Dieu pour ça. Bon, dans Proverbe 9, maintenant, verset 10. Proverbe chapitre 9 et le verset 10. Je vais vous lire encore dans la Bible du Semeur. Je donne un peu un fondement ce matin, juste en ce moment, un fondement, mais important. Puis après, vous verrez où on s'en va. Dans Proverbes chapitre 9 et le verset 10, dans la Bible du Semeur, ça nous dit ici, la clé de la sagesse. Dites, la clé de la sagesse. Donc, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement. Donc, la clé de la sagesse, si vous voulez avoir la sagesse, mais cette clé-là, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. On aurait pu appeler ce message-là la révérence pour Dieu ou encore la crainte de l'Éternel. Dans Louis II, le même texte nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. » Dieu veut vous rendre sage et intelligent. Et le commencement de tout ça, c'est d'avoir une crainte pour votre Dieu. J'ai écouté un témoignage récemment. Un frère a posé une question à un évangéliste qui avait chuté moralement. Puis il a dit, « C'est à quel moment que tu as arrêté d'aimer Dieu? » Et puis celui qui avait chuté, il a dit, « J'ai pas arrêté d'aimer Dieu, mais j'ai arrêté de craindre Dieu. J'ai arrêté d'avoir ce respect pour mon Dieu. Et puis je me suis mis à faire toutes sortes de choses, tout croche. » C'est pour ça que la crainte de l'Éternel va vous préserver de la chute. La crainte de l'Éternel va vous préserver afin que vous puissiez entrer dans votre destinée. Sans la crainte de l'Éternel, vous devenez un insensé, selon la parole de Dieu. Donc, je vais relire. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement ou l'intelligence. Donc, si vous voulez devenir sage, la sagesse, ça commence en respectant Dieu. Des fois, les gens peuvent essayer d'être sages en écrivant des livres, peut-être, en essayant d'être créatifs, peut-être, avoir des discours et créer des choses pour essayer d'impressionner les hommes. Mais savez-vous comment impressionner Dieu? C'est en obéissant à sa parole. La crainte de l'Éternel, c'est un sujet qu'on n'entend plus prêcher beaucoup, mais je peux vous dire en ce moment, l'Esprit de Dieu est en train d'envoyer ce message partout dans les nations pour dire « l'heure est arrivée, que l'épouse doit se préparer » et cette préparation concerne la crainte, la révérence, un respect profond pour le roi des rois. Un respect profond. Gloire à Dieu! Et si vous captez aujourd'hui le message, et si vous dites « Seigneur », des fois les gens s'imaginent « ben, je respecte Dieu », mais on va voir si c'est vraiment vrai. Parce que des fois, c'est bon de l'entendre. Peut-être votre chair dira « je ne veux pas entendre ça », mais l'Esprit de Dieu en vous dit « oui, c'est ça que tu as besoin d'entendre, parce que je veux venir te prendre prochainement ». Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse des hommes concerne souvent des textes profonds ou poétiques peut-être. Et là, les hommes sont impressionnés. La sagesse de Dieu implique tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Bon, Dieu nous dit ici qu'on va discerner, on va avoir l'intelligence pour discerner. Je vais vous poser des questions et vous pouvez réfléchir ce matin. Admettons, vous avez un sujet dans votre vie et peut-être il y a des gens, des enfants de Dieu qui vous diraient, ici, tu dois peut-être changer certaines choses. Qu'est-ce que Dieu dit concernant un sujet qui vous préoccupe en ce moment? Si je vous parle d'un sujet ici, peu importe, moi je ne vous connais pas intimement dans votre vie, à la maison. Mais s'il y a quelque chose dans votre vie et il y a des frères ou des sœurs qui ont essayé d'adresser une situation dans votre vie, et puis des fois, vous êtes peut-être dans un combat entre l'opinion de vos frères et de vos sœurs et votre opinion. Mais si on fait abstraction de votre opinion et de l'opinion de vos frères, demandez-vous, qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Je ne connais pas votre situation. C'est clair, hein? Je ne connais pas votre situation. Mais s'il y a quelque chose dans votre vie, en ce moment, ou peut-être même dans le passé, où les gens ont essayé de mettre leur doigt dessus, disant, « Bien, je parle au nom de Dieu, peu importe. » Mais si on oublie cette personne-là et on oublie même votre opinion, qu'est-ce que Dieu dit de cette situation-là? Avez-vous déjà arrêté pour penser à ça? Parce que des fois, les gens vont dire, « Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation-là? » Et puis, on peut avoir toutes sortes de situations dans le corps de Christ et on peut se poser la question, « Qu'est-ce que tu penses de ceci ou cela? » Dans nos conversations, on fait ça, n'est-ce pas? On a tous nos opinions. Qu'est-ce que tu penses, toi, pasteur, de cette situation-là? Ou qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela? Et on peut vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Mais réalisons que tout ça, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Tout simplement. Donc, on devrait s'arrêter et dire, qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Et humblement accepter ce que Dieu dit. Parce que si on accepte ce que Dieu dit en tout temps, ce que Dieu dit va toujours vous préserver. Ce que Dieu dit, c'est toujours la bonne réponse. Est-ce que j'écoute Dieu ou suis-je rebelle? Est-ce que je veux plutôt faire ce que je veux faire? Ou est-ce que je dis, Dieu l'a dit, je vais faire ce que Dieu dit? Je pose des questions sérieuses quand même. Est-ce que j'accepte aussi d'écouter les conseils du Seigneur quand le Seigneur me parle? Oh, mais gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours dans la victoire? OK, la clé de la sagesse, ou le commencement de la sagesse, c'est la crainte, la révérence de notre Dieu. Bon, si on dit, OK, c'est simple, pour nous, si on veut honorer Dieu, le respecter, on doit faire tout simplement ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? On va obéir. Mais comment obéir à Dieu? Comment vraiment être un enfant de Dieu obéissant? Bien, on revient à une chose importante, c'est la parole de Dieu. Et je vais vous dire des choses ce matin, peut-être vous dites, bien, c'est clair, on connaît tout ça, mais je peux vous assurer, frères et sœurs, et nos amis sur Internet ce matin, je sais que Pasteur Alain peut-être m'écoute, il disait qu'il suivait toujours nos cultes en après-midi. Donc, bonjour Pasteur Alain. Mais pour les autres, là, il y a plein de gens des fois qui s'imaginent, oui, il y a des choses qu'on connaît dans notre tête, mais qu'on ne met pas en pratique. Là, je ne dis pas ça pour Pasteur Alain, là. C'est pas une exhortation, c'est juste, je prêche là. Mais la parole de Dieu est l'autorité ultime et finale. On peut s'imaginer, ah ben oui, on sait ça, tout le monde sait ça. Je peux vous assurer, frères et sœurs, c'est faux. C'est vraiment, vraiment faux que les chrétiens s'imaginent ou marchent vraiment selon la Bible. Je peux vous assurer, frères et sœurs, que c'est pas vrai ça. Que la Bible ne fait pas autorité dans plusieurs vies. C'est triste, malheureusement, je dois vous le dire, mais c'est vraiment vrai. Hein, c'est redondant, là, mais c'est vraiment absolument vrai. La parole de Dieu est l'autorité ultime et finale. Quand on arrive à cette place où on a une crainte, une révérence pour Dieu, ça veut dire vraiment on va se soumettre à la parole de Dieu. Ceci veut dire, si Dieu l'a dit, je vais vraiment obéir à cette parole-là. En passant, je ne suis pas en train de vous écraser, ce n'est pas un message lourd. Non, c'est un message super léger, parce que ça vous permet de vous envoler. I'll fly away, hallelujah. Je m'envolerai. Quand j'irai, hallelujah, dans le ciel, je m'envolerai. Amen. Je ne veux pas rester ici, non, je ne veux pas rester. J'aime bien mieux entendre un message comme ça et m'envoler. Alléluia. C'est des nouvelles paroles. Amen. La parole de Dieu est l'autorité ultime dans ma vie. L'autorité ultime dans ma vie. Le sage. Vous voulez être sage, frères et sœurs?
Oui.
Alléluia. Vous voulez être sage. Pas selon le monde, parce que le monde, eux, ils ont leur opinion de la sagesse. Mais si vous voulez être sage selon Dieu, écoutez bien ceci. Le sage écoute la parole de Dieu. Vous voulez commencer et devenir un sage, écoutez tout simplement la parole de Dieu. Il y a des gens qui m'ont demandé des fois, comment tu as fait pour réussir dans telle ou telle chose? Tu dois avoir beaucoup de sagesse. Bien, la sagesse que j'ai, ça vient de Dieu. Mais moi, je ne suis pas vraiment intelligent, humainement. Je suis juste obéissant. C'est vrai. Puis ça fait de moi peut-être intelligent, selon Dieu. Mais c'est pas compliqué. Vous savez, là, vraiment, si vous obéissez, vous allez vous retrouver à la bonne place au bon moment. Vous allez éviter des détours. Si vous obéissez tout simplement, vraiment, là, je peux vous dire, pas pour me mépriser, mais je suis pas plus intelligent que vous. On est tous, gloire à Dieu, à l'école, j'étais juste ordinaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il y a une chose. Quand Dieu parle, ce que je veux faire, mon cœur, je ne l'ai pas toujours fait. Malheureusement, je suis un être humain, savez-vous ça? Je n'ai pas toujours marché deux pieds sur les nuages avec Dieu. Mais mon cœur, au fin fond de mon cœur, si je veux obéir quand Dieu parle. Ésaïe 1, 2, un texte super merveilleux qui nous parle ici. Le sage écoute Dieu. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 2, « Cieux, écoutez! » Ça, c'est un appel. « Cieux, écoutez! Terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle! » Pourquoi? Car l'Éternel parle. Quand Dieu parle, toute la terre devrait écouter. Les cieux, les anges, tout ce que vous voulez. « Cieux, écoutez! Terre, prêtez l'oreille! » Pourquoi ça donc? Car l'Éternel parle. Quand Dieu parle, ça devrait faire une différence. Quand Dieu parle, on devrait avoir une réaction. L'indifférence à la parole de Dieu, quand Dieu nous dit clairement des choses, puis on dit, « Ouais, c'est écrit, mais j'ai ma façon de voir les choses, et puis je vais faire à ma façon, après je vais me repentir. » Ça, ce n'est pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est, « Je le sais que ça va me coûter quelque chose en ce moment si j'écoute ce que Dieu a dit. » Je sais que je vais peut-être sembler être un perdant dans cette situation-là. Mais Dieu l'a dit. Vous savez, c'est tellement facile de vous le prêcher ce matin parce qu'en ce moment, on ne parle pas d'un cas précis. Mais essayez de penser peut-être à une tentation que le diable a mis devant vous. Peut-être quelqu'un vous a offert de l'argent. On va prendre un exemple comme ça. Une situation où vous pouvez payer quelqu'un, mais en dessous de la table, la personne vous dit, bien, écoutez, vous allez économiser des taxes, là. Je vous fais ça, vous me donnez ça en argent, puis on s'arrange. Vous savez, il y a des gens comme ça dans notre société. Ils vont venir dans nos maisons. Des fois, moi, j'ai eu des gens comme ça pour des contrats pour la maison, pour des réparations, des choses semblables. Puis là, ils vont dire, bien, on va s'arranger comme ça. Puis je dis, non. Là, les gens sont surpris. Je dis, je veux avoir mon reçu. Je veux payer des taxes, monsieur. Je veux payer des taxes. Alléluia! C'est sérieux, là. Des choses comme, je vous donne ça juste comme exemple. Mais quand on sait, Dieu l'a dit, je veux marcher dans l'intégrité, l'honnêteté. Si j'ouvre une porte pour économiser des taxes, savez-vous, je vais être perdant aussi, à long terme, je vais devenir vraiment perdant parce que là, je décide, Dieu, tes principes, je vais les mettre de côté, je vais faire selon moi. Et là, après, je te demanderai pardon. Mais le péché a toujours des conséquences. Savez-vous ça? Le péché a toujours des conséquences. Même si Dieu nous pardonne, il va avoir des conséquences. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Donc, cieux, écoutez, taille, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Quand Dieu parle, le peuple de Dieu écoute. Amen! Le psaume 119, verset 89, dans la Bible du Sommeur, « Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours. » Je peux vous dire, la parole de Dieu est éprouvée. Sa parole est fondée. Tout ce que Dieu a dit, c'est bien, c'est bon. Et quand on se soumet, puis on dit, « Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, je vais me soumettre. C'est moi, je vais choisir, je vais écouter ce que tu dis. Ta parole est au-dessus de moi, Seigneur Dieu. » Ce n'est pas l'inverse. C'est le psaume 119, verset 89. Proverbe 2 maintenant. Venez avec moi. Proverbe 2. Et on va lire versets 1 à 10. Vous comprendrez que quand on chérit la parole de Dieu, quand on chérit les instructions de Dieu, ceci crée le climat pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je veux vivre la gloire, j'aimerais ça vivre le nuage, la présence de Dieu. J'aimerais ça vivre. Et vous savez, Dieu a fait des choses, Dieu fait des choses et Dieu fera des choses dans cette église. Et pas juste ici, je crois même par l'Internet. Il y a des gens dans les maisons en ce moment, vous vivez des choses avec Dieu. L'Esprit de Dieu fait des choses, guérit des corps malades. Cette semaine, j'ai reçu un autre courriel d'une femme qui a été guérie instantanément en proclamant la parole de Dieu via l'Internet. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est à l'œuvre. Mais vous savez, Dieu est à l'œuvre à cause de sa parole. On doit avoir cette révérence pour Dieu. Vraiment, frères et sœurs, et ce matin, si vous pensez ce message n'est pas pertinent, je peux vous dire, on est dans l'heure, frères et sœurs, où ce message a besoin d'être proclamé dans les nations. Que la parole de Dieu est digne de confiance. Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et puis quand on considère que Dieu donne des rêves, pour avertir l'Église, pour qu'on prêche des messages semblables. Imaginez, on doit dire à l'Église que Dieu est digne de confiance. C'est spécial que Dieu envoie des messages prophétiques, des rêves, des songes, pour dire que le nuage arrive. Le nuage de la gloire de Dieu arrive. Mais dans le nuage, comprenez ceci. Vous savez, quand vous lisez le livre des Actes, avez-vous déjà entendu parler d'Ananias et Saphira? Je ne veux pas vous faire peur. Mais des fois, on est là, on dit, Seigneur, on veut ta gloire. Voulez-vous vraiment la gloire? Voulez-vous vraiment la gloire de Dieu? Parce que quand la gloire de Dieu vient, il faut être recouvert par le sang de Jésus. Frères et sœurs, je ne veux pas vous faire peur, mais quand vous lisez l'histoire d'Ananias et Saphira, Ils ont menti dans la maison de Dieu, puis bing bang, ils tombent morts comme ça. C'est ça qui se produit dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Si on comprend, vous savez, on a tellement apprécié sur la bonté de Dieu. Notre Dieu est bon, absolument Dieu est bon. N'est-ce pas? Dieu est bon, gloire à Dieu. On a prêché la grâce. Oui, Dieu est gracieux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On croit ça, Éphésiens 2, 8 à 10. Donc, on a prêché la bonté de Dieu, la grâce, tout ça. Mais on a oublié la crainte de l'Éternel à bien des reprises. Et on a cru, bien, à cause de la grâce, je peux vivre comme je veux, il n'y a pas de problème. Mais si vous lisez la Bible, vous lisez le livre des Actes, c'est correct, c'est en passant, comme ça, on vit comme avec peu de sainteté quand il n'y a pas de présence de Dieu. Comprenez? S'il n'y a pas de présence de Dieu, puis on fait la religion, une réunion, chaque dimanche, on fait juste de la religion, juste des réunions, puis il n'y a pas de présence de Dieu, c'est correct. Comprenez? Est-ce que vous me suivez? Si la présence de Dieu est absente, là, on est à l'église, Dieu ne se manifeste pas, on peut vivre tous dans le péché, il n'y a pas de problème, on fait tous les hypocrites. Seigneur te bénisse, Seigneur te bénisse, on retourne chez nous, on vit tous dans le péché. Et c'est la belle grande famille religieuse, mais pas de présence. Et heureusement, pas trop de présence. Parce que si la présence de Dieu descendait, dévoilait tout, il y aurait des choses qui se passeraient, n'est-ce pas? Bon. Quand on considère le livre des Actes et Ananias et Saphira sont morts sur le champ comme ça, quand la présence de Dieu venait, il y a une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on peut être purifié. Mais la seule façon qu'on peut être purifié, c'est quand on réalise que notre Dieu, qui est bon et gracieux, on ne peut pas rire de Dieu non plus. Vous comprenez? Si on a une révérence pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va vivre sous une pression que « Oh, si je chute, si je commets un péché, Dieu va me rejeter. » Ce n'est pas ça que je suis en train de prêcher. Mais c'est une révérence où on veut faire comme Jésus, plaire à Dieu avec notre vie. Ça veut dire qu'on a ce désir, on veut plaire à Dieu. Puis si on veut plaire à Dieu, on réalise que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va y arriver. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin de la présence de Dieu. Et certainement, on va vouloir être purifié de nos péchés. Vous comprenez? Donc, si j'ai une crainte, une révérence pour mon Dieu, ça veut dire que je vais savoir que j'ai besoin de m'approcher de lui, laver. Dieu nous donne des vêtements blancs, des vêtements de pureté, gloire à Dieu, mais la seule façon de recevoir ce vêtement-là, c'est on doit réaliser qu'on a besoin de le recevoir, n'est-ce pas? Dieu ne nous forcera pas, mais on doit être revêtu de ces vêtements de justice. Mais la seule façon, on doit dire, Seigneur, pardonne-moi, qu'on soit toujours dans ce désir de marcher dans la sanctification. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc, dans Proverbes chapitre 2, versets 1 à 10, là, dites à votre chair, chair, j'aime ça. Amen. OK, hallelujah. Vous allez peut-être finir par y croire, là. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 10. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu t'inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Frères et sœurs, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est tellement merveilleux. La sagesse de Dieu. Donc, on est exhorté ici, on doit appeler la sagesse. « Oh Seigneur, je veux ta sagesse. Élève ta voix vers l'intelligence. » Ça veut dire, « Seigneur, je veux, Seigneur Dieu, recevoir la pensée de Christ et l'avoir vraiment et marcher dedans. » Si tu la cherches comme l'argent, combien d'entre nous, des fois, on cherche plus autre chose que l'argent? On s'imagine, « Oui, mais j'ai besoin de payer mes comptes, mes choses. » On comprend ça. Mais souvent, on cherche plein d'affaires. Mais si on cherchait premièrement la crainte de l'Éternel, toutes ces autres choses nous seraient rajoutées. Je parlais avec le pasteur Alain Patrick Senghi. Cette semaine, on a fait 10 émissions de télé ensemble. Il racontait l'histoire d'une jeune fille dans son église qui étudiait pour être avocate ou quelque chose comme ça. Et puis, il a dit, j'aimerais ça t'offrir tel ministère dans l'église. Est-ce que tu aimerais servir dans ce ministère-là? On parlait de l'importance de se rendre disponible. Puis la jeune femme a dit, bien, j'aimerais bien ça, mais j'étudie pour devenir avocate et mon horaire est assez plein. Elle avait des raisons légitimes. Et puis, là, le pasteur Alain, il a tout écouté ça, puis il a dit, « Parfait, mais je te demande de commencer mardi soir, quelque chose semblable. » OK? Ça voulait dire, « Ça ne change rien dans ma vie. » Et tu t'encourages, réponds à l'appel de Dieu. Puis là, tu fais-moi confiance. Donc, la jeune femme qui est aux études, peut-être débordée, semblerait-il, était supposée, c'était une sœur africaine, mais elle arrivait en France, était obligée de poursuivre ses études, en fait, recommencer des études qu'elle avait déjà accomplies en Afrique, parce que là, en arrivant en France, il ne reconnaissait pas ses études. Donc, sur 5 ans, je pense qu'il lui restait 3 ans à refaire. Imaginez, elle avait une raison de dire, écoutez, ça fait déjà 5 ans que j'étudie en Afrique, là, j'arrive ici, il faut que je recommence, j'ai déjà 2 ans sur 5, mais j'avoue, je suis assez occupé. Pouvez-vous penser que c'est légitime, ça? J'ai pas le temps. C'était pour animer un groupe vie, en plus. J'ai pas vraiment le temps, pasteur Alain. Là, je répète peut-être pas exactement l'histoire 100% parce que c'est pas mon histoire. Mais en gros, elle disait, c'est ça, j'ai pas vraiment le temps. Et parfait, t'es engagé quand même. Mais là, tout ça pour dire, comme elle a mis Dieu en priorité, la faveur de Dieu s'est installée dans sa vie. Et puis, tout d'un coup, l'université a dit, finalement, t'as pas besoin de faire les 3 ans. De plus, t'es accepté comme ça. Hallelujah! Gloire à Dieu! Mais elle avait la crainte de l'Éternel. Elle voulait obéir au Seigneur, tout simplement. Voyez-vous, quand on obéit, ça fait pas de sens des fois humainement, mais on est toujours gagnant. Hallelujah! C'est toujours pour notre bien que Dieu nous parle. Imaginez, vous êtes là, je vous exhorte ce matin sur la crainte de l'Éternel. Votre chère dit, je déteste ce message, est-ce que je peux avoir mon téléphone, on va texter là, quelqu'un pour dire, là, j'aime pas ça. Votre chère crie, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je connais déjà tout ça. Votre chère est comme ça, là. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? La chère est comme ça des fois. Mais là, à cause vous avez entendu ça, puis c'est un message que vous connaissez peut-être, mais que votre esprit avait besoin de réentendre, là, l'Esprit de Dieu est en train de vous préparer, vous rappeler des choses. Et là, Dieu va vous ouvrir des portes d'opportunité pour le service. Et puis votre chair va dire, ben non, tu n'as pas le temps. Ben non. La chair est comme ça, hein? Mais là, l'Esprit de Dieu va vous rappeler des choses. Il va vous inspirer. Et ce qui va se passer, le Seigneur, justement, va prendre ce message-là et va vous préparer. Parce que Dieu prépare son épouse. L'épouse s'est préparée, mais c'est toujours avec le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dit quoi faire. Amen. C'est-à-dire que là, l'Esprit de Dieu est en train de préparer l'épouse partout à travers le monde. Et puis, vous allez vous réjouir parce que quand la trompette va sonner, ou peut-être plus puissant que ça, vous allez, hallelujah! Je suis tellement content que j'ai entendu ce message-là. Gloire à Dieu, je me suis préparé, je n'ai pas perdu mon temps. Quand Dieu m'a parlé, j'ai écouté, hallelujah! Puis, je ne connais même pas votre vie, je ne connais pas les situations, je ne connais rien de vos situations, mais Dieu vous connaît et ce que je suis en train de vous dire, vous savez ce que Dieu vous dit à vous personnellement, n'est-ce pas? Quand Dieu nous parle, on le sait. Alléluia! Donc, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Si on recherche, on dit, Seigneur Dieu, ce que je veux plus que tout au monde, là, plus que l'argent, hein, plus qu'un trésor, la Bible nous dit, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça veut dire, je ne ferai jamais rien qui va à l'encontre de ce livre. Parce que ce livre, ce n'est pas juste un livre, c'est la parole de Dieu. Oh, je peux vous dire, il y a des opportunités des fois où on dit, oui, je le sais que c'est écrit, mais je connais mon Dieu, je sais que Dieu est gracieux, et puis Dieu va me pardonner, même si je ne fais pas comme il me dit. En connaissez-vous des gens comme ça des fois? Je le sais, là, mais mon Dieu est tellement bon. Je vais désobéir, là, puis après, je vais demander de me pardonner, puis je vais avoir fait à ma tête. Parce que c'est ça que je veux faire. Ce que vous croyez est le meilleur plan, selon vous, je peux vous dire que vous vous trompez. Le plan de Dieu est meilleur que votre plan. Mais je l'ai essayé, son plan. Ça ne marche pas. Je ne l'aime pas, ce plan-là. Écoute, ça fait trop longtemps que j'attends pour ce plan-là. Je vais faire ça à ma façon. Puis je sais que Dieu est... Puis c'est vrai en plus, Dieu est compatissant, Dieu est gracieux, Dieu nous pardonne, c'est vrai. Mais en fait, c'est mieux d'écouter son plan. Et là, vous verrez des choses merveilleuses. OK. Hallelujah. Parce que, bon, le sage écoute la parole de Dieu, mais l'insensé la méprise. L'insensé la méprise. Dans Proverbe 14, verset 12, ça nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, telle voie paraît droite, on dirait, ça semble super bien, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dans Matthieu 7, verset 13 et 14, nous lisons ici un texte. Ça nous dit « Entrez par la porte étroite. » C'est un texte qu'on a souvent cité pour l'évangélisation, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est bon pour l'évangélisation. Mais c'est bon aussi pour nous aujourd'hui, si on peut penser comme ça. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Avec Dieu, la bonne nouvelle, avec Dieu, souvent, c'est toujours plus dur. Alléluia! Oh, c'est quel message bénissant! Alléluia! Avec Dieu, des fois, c'est plus inconfortable. Parce que la foule sont dans le party. Ça, c'est pour les gens dans le monde et autant pour les gens dans l'Église. Frères et sœurs, alléluia! On est dans le party parce que c'est facile. On s'en va, tout le monde la gang, on se tape sur les épaules. Oh, c'est bon! C'est comme ça! Hey, la gang, on suit la gang. Mais l'Esprit de Dieu, je peux vous dire, souvent, là, il n'est pas dans la gang. Souvent, Dieu, il dit, dans le monde, tout le monde sont là avec leur bouteille d'alcool en train de s'enivrer, peut-être. OK, dans le péché, ça, c'est facile à discerner. Mais une autre gang, peu importe, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. On va juste dire comme ça. Qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Dieu dit... Souvent, là, vous êtes, admettons, vous êtes dans cette foule. Dieu peut vous dire, écoute, j'ai des meilleurs plans pour toi. J'ai quelque chose de meilleur. Mais Seigneur, ça va me coûter quelque chose. Oui, mais j'ai des meilleurs plans pour toi. Et puis, on peut dire, Seigneur, mais c'est plus facile, là, je suis entouré de tellement d'amis. Mais j'ai des meilleurs plans pour toi. Mais Seigneur, ça va me coûter quelque chose. Et puis Dieu peut vous dire oui, et vous sauver, ça m'a également coûté quelque chose. Vous sauver, ça m'a coûté le meilleur, mon meilleur. Donc, on choisit ce qu'on veut. Hein? On peut choisir le chemin facile, le chemin de nos intérêts personnels, ou totalement s'abandonner entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, il y a un chemin, il y a plein de gens dessus. Des fois, c'est facile, facile. On dirait, ça se coule, comment on dit en québécois, ça se coule douce, je ne sais pas trop, là. En tout cas, c'est facile. C'est facile. Mais avec Dieu, des fois, il faut sortir de la foule et dire, non, Dieu m'appelle à aller plus haut. Dieu m'appelle à aller plus haut avec lui, dans l'intimité. Mais vous savez, une autre chose, là, je vais laisser mes notes parce que j'ai... trop de notes, puis ça ne donnera rien. Parce que je ne veux pas juste vous donner des versets, je veux que vous puissiez comprendre une chose. Vous savez, être dans l'intimité avec Dieu, ça coûte quelque chose. Savez-vous ce que ça coûte? Ça coûte, oui, le renoncement, mais on est obligé de se regarder dans le miroir. Parce que quand on a la crainte de l'Éternel, l'Esprit de Dieu va tout de suite nous révéler des choses sur nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas vivre la présence de Dieu. Parce que quand ça vient intense, quand la présence de Dieu vient, quand on est dans la présence de Dieu, il y a un inconfort de l'homme charnel. Je vous illustre. On peut être des chrétiens en amour avec Jésus ensemble. Il y a un inconverti qui arrive dans la pièce. L'inconverti, là, on ne parle pas de Dieu en ce moment, on parle de rien, mais l'inconverti là, se sent mal à l'aise, il sent « Ah! » OK, là, il faut que je m'en aille bientôt, là. Avez-vous déjà vécu ça? Des gens qui ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, sont inconfortables par la présence de Dieu. On n'a rien dit, pourtant, on est juste habillé de la présence de Dieu. La présence de Dieu est là, on est vêtu de sa présence. L'onction de Dieu est avec nous. On ne parle même pas de Dieu, peut-être. Mais la personne ressent un inconfort. Donc, la réaction, c'est qu'elle va vouloir fuir si elle ne veut pas de Dieu. Mais c'est la même chose parmi le peuple chrétien. Si l'onction de Dieu descend, il y en a qui disent, « Oh, oh, là, l'Esprit de Dieu commence à me révéler des choses sur moi-même. » On a même l'impression, à chaque fois que le pasteur Joël prêche, qu'il est en train de pointer du doigt. Oh, il prêche tout le temps contre moi, là, ce pasteur-là. Non, je ne prêche pas contre vous. Je fais juste prêcher la Bible. Combien de fois les gens m'ont dit, j'ai toujours l'impression que tu connais tout sur moi, là, puis tu es en train de tout le temps me prêcher contre. Je ne suis pas de même, moi. Je ne vous connais même pas. Juste, je vous connais frères et sœurs, mais je ne connais pas ce que vous faites à la maison. Quand vous vous sentez comme ça, là, tu es tout le temps en train de me pointer du doigt. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi pensez-vous que le Saint-Esprit vous adresse des choses que votre chair n'aime pas? C'est pour vous faire sentir super poche, là. Non, c'est pour vous délivrer. Si l'Esprit de Dieu met son doigt, là, vous êtes là, j'aime pas ça. Votre chair n'aime pas ça, mais que votre esprit prenne le dessus, puis là, vous dites, il a mis son doigt là, l'Esprit de Dieu a mis son doigt là, là. En passant, je n'ai même pas mentionné de péché. Hein? Donc, si vous ne m'aimez pas en ce moment, là, j'ai rien dit de spécifique. Avez-vous remarqué? J'ai rien dit de spécifique. Donc, si vous me détestez en ce moment, ce n'est pas vraiment moi que vous détestez, là. OK, je me défends un petit peu. Mais l'Esprit de Dieu est en train de toucher quelque chose, un bobo. Il touche un petit bobo, là. Mais ce n'est pas pour aller mettre du push-push qui brûle dessus, là. C'est pas pour faire ça, là. C'est parce qu'il veut guérir. Mais vous avez besoin d'enlever votre doigt qui dit non, 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 non. Non, non, c'est comme nos enfants, on veut mettre du push-push, du désinfectant, là. Puis ils disent non, 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 ça va brûler. Mais on est de même avec Dieu, le Saint-Esprit. Non, 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 non. Puis là, l'Esprit de Dieu dit, enlève ta main, laisse-moi donc mettre du push-push céleste. Pour que ce push-push céleste guérisse le bobo. L'idée, c'est pas d'aller psss, psss, ah! C'est pas ça l'idée. Ce que Dieu veut faire, c'est guérir. Vous comprenez? C'est ça que Dieu veut faire. Dieu est un spécialiste de la guérison. Donc, il veut adresser le bobo parce que si on ne l'adresse pas, ce bobo-là s'infecte. Ça s'infecte et devenez ce qui se produit quand on est infecté, on meurt. Et Dieu dit, je ne veux pas que vous mouriez, je veux que vous vivez. Dieu veut qu'on puisse vivre. Donc, il faut juste lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Et j'ai cette crainte pour ton nom. Je ne serai pas choqué contre le pasteur. Je vais me choquer contre le diable. Je vais me choquer contre le diable. Puis là, l'esprit qui est en moi là, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis moi, là, je vais prendre ma place et je vais vraiment marcher dans la crainte de l'Éternel. Ce que Dieu a dit, même si ça me coûte, peu importe, même si je me fais persécuter. Vous savez, quand l'onction de Dieu descend, il peut avoir de la persécution, pas des inconvertis parce qu'ils ne sont pas là avec nous. Savez-vous qui peut vous persécuter quand l'onction de Dieu descend sur une personne? Des religieux. Mm-hmm. Ça fait mal, ça, n'est-ce pas, quand un religieux vous persécute? Si vous êtes là, puis l'onction de Dieu descend sur vous, et peut-être vous êtes un peu différent, est-ce que ça peut arriver? Quand l'onction de Dieu descend, vous allez peut-être être un peu différent. Vous allez peut-être vivre des choses différentes. Mais là, êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit faire son travail? Pour ça, il faut avoir la crainte de Dieu. Puis dire, Seigneur, je te fais confiance, je ne comprends rien là. Je ne sais pas pourquoi il faut que je revoie le 10 pieds en arrière. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as peut-être quelque chose à faire. Vous comprenez? Est-ce qu'on va se faire persécuter pour ça? Oui! Alléluia! Je suis habitué. C'est pour ça que Dieu nous a préparés depuis des années à se faire persécuter. Hein, est-ce que ça se peut qu'on va se faire persécuter? Mais êtes-vous capable d'être persécuté puis être correct quand même? Ben oui. On ne meurt pas dans la persécution à moins qu'on se fasse tuer. C'est une belle citation, ça. On ne meurt pas dans la persécution, sauf si on se fait tuer. Mais la crainte de l'Éternel, une révérence de notre Dieu, c'est la soumission, l'obéissance à sa parole. Et Dieu aime ça. Je peux vous dire, si là, vous dites, Seigneur, je veux cacher cette parole en moi, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je veux tellement l'aimer, cette parole. Et Dieu le sait. Quand on aime sa parole, on aime Dieu. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, est en train de faire un travail merveilleux partout à travers le monde. C'est pour ça qu'il donne des rêves sur des choses, on dirait, de base. Dire aux chrétiens qu'ils doivent obéir Dieu, mais ça a l'air que c'est un message qu'on a besoin d'entendre. Sinon, l'Esprit de Dieu ne le dirait pas. Si c'est un fait accompli, puis tout le monde le sait. Mais ça a l'air qu'on a besoin de le savoir. Ça a l'air qu'on a besoin de le savoir. Ça a l'air aussi qu'on a besoin de suivre le Seigneur et pas la foule. Ça a l'air qu'on a besoin de vraiment rechercher sa présence plus que toute autre chose et rechercher la sagesse de Dieu plus que notre salaire, plus que n'importe quel trésor. Parce que si vous recherchez Dieu, vous recherchez sa présence, vous vivrez les plus grandes choses. Je n'ai pas terminé le message parce que je voulais vous donner tous les points bénéfiques de la sagesse de Dieu. Parce qu'il y a tellement des choses, des bonus que vous avez en tant que chrétien, des bonus que la sagesse vous donne, mais je ne veux pas aller trop vite pour juste vous donner plein de choses. Je veux que l'Esprit de Dieu fasse un ménage et un travail en nous, en profondeur. Parce que si à Bethel, là-bas, en Californie, prêche là-dessus, nous prêche comment on doit revenir à cette crainte de Dieu. C'est juste hier soir, après que j'ai préparé ce message, que j'ai découvert que d'autres en parlaient autant, là. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de nous dire tout le même message. Le même message. Ne soyons pas sages aux yeux des hommes, soyons sages aux yeux de Dieu. La sagesse, oh, c'est une révérence pour notre Dieu. Alléluia. On va prier ensemble ce matin. Ce que j'aimerais qu'on fasse, qu'on prie. Vous savez, j'ai lu un premier texte concernant l'esprit que Jésus avait. Je vais vous relire, puis après on va prier pour vraiment recevoir cet esprit qui est disponible pour nous. Amen. Dans Ésaïe 11, versets 2 et 3, j'ai lu auparavant, concernant Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous êtes les co-héritiers de Christ, n'est-ce pas? Amen. Co-héritiers avec Christ. Ça vous appartient. Là. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Voulez-vous l'Esprit de sagesse ce matin? Et d'intelligence. Voulez-vous toujours avoir la bonne chose? Toujours avoir la bonne réponse à l'école? Toujours avoir la bonne réponse. Bien, Dieu vous a donné la pensée de Christ. Vous pouvez avoir la pensée de Christ, l'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de... Ça, je suis en train de vous dire des choses ce matin, puis vous pensez peut-être... Comprenez, là. Esprit de conseil et de force, de puissance qui descend sur vous, sur votre vie. Esprit de force. Esprit de puissance. Ceci veut dire, vous pouvez prier pour les malades et les malades seront guéris. Croyez-vous ça ce matin? Esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voyez-vous pourquoi la crainte de l'Éternel? Parce que c'est ça qui permet toutes les autres choses. Il respirera la crainte de l'Éternel. Voulez-vous respirer la crainte de l'Éternel? Il ne jugera point selon l'apparence, il ne prononcera point sur un oui digne. Il va respirer, ou son plaisir, ça va être l'obéissance, la crainte de l'Éternel. Tout ce qu'il va faire, il va savoir, celui qui me regarde en ce moment, c'est Dieu. C'est Dieu. Aujourd'hui, avant qu'on prie, je vais vous demander, si cette semaine, on projetait chaque pensée que vous avez eue, si on projetait ça sur l'écran ici ou l'écran là, et puis je choisissais quelqu'un dans la foule, et puis je dis, aujourd'hui, on va projeter toutes les choses que notre sœur a vues, on va projeter ça sur l'écran géant. Seriez-vous prêt ou volontiers de dire, je veux être bénévole, montrez ce que j'ai pensé. Qui serait bénévole? Non. Oui, OK, il y en a qui disent oui, alléluia, gloire à Dieu. Mais peut-être certains d'entre vous vous dites, non, il y a eu des choses dans ma vie, peut-être, j'ai peut-être pas toujours pensé selon le cœur de Dieu. Donc, ce que Dieu veut faire, peu importe, je vous donne ça comme illustration aujourd'hui. On peut venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux renouveler aujourd'hui mon désir de te craindre. Je prends cette décision aujourd'hui, je veux entrer dans cette nouvelle dimension de révérence pour le roi des rois. Et comme on prend une décision aujourd'hui, je sens la présence de Dieu comme je l'ai dit, mais prendre une décision aujourd'hui même, je prends un pas dans la révérence pour Dieu. la révérence pour le roi des rois. Aujourd'hui, on va prier ensemble et je crois, comme vous allez commencer à vivre des choses nouvelles avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, vous allez vraiment devenir de plus en plus sensible à la voix de Dieu parce que vous avez pris cette décision aujourd'hui. Vous, les enfants de Dieu, je veux marcher dans cette révérence pour toi, Seigneur Dieu. Cette révérence pour ton nom, la crainte de l'Éternel. C'est une chose super importante, frères et sœurs, la crainte de l'Éternel. Pas la peur de Dieu, mais cette révérence pour notre Dieu. Ça veut dire à chaque moment de ma vie, je vis conscient que Dieu est là, conscient que Dieu est ma source en toutes choses, conscient que si j'agis avec Dieu, Dieu va se glorifier dans ma vie. Amen. Dieu, Seigneur Jésus, je prie maintenant. Je prie, Seigneur Dieu, concernant notre besoin, Seigneur, d'être totalement purifié. D'être totalement purifié, Seigneur. Seigneur, nous croyons dans l'œuvre de la croix. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous laver de tous nos péchés. Et aujourd'hui, on vient devant toi, Seigneur Dieu. On te demande maintenant que le sang de Jésus coule de la tête aux pieds, Seigneur Dieu. Que ton sang purifie chaque aspect de nos vies, chaque particule de notre personne, Seigneur Dieu. On veut rien, Seigneur Dieu, retenir. On veut aucune place du royaume des ténèbres en nous. Absolument rien, Seigneur Dieu. Mais aujourd'hui, on vient devant toi, devant le trône de la grâce, puis on te demande, Seigneur Jésus, que notre vie puisse te plaire. Seigneur, on rejette aujourd'hui la crainte des hommes. On rejette la crainte des hommes et on choisit la crainte de l'Éternel. On te choisit, Seigneur Dieu. On te dit, Seigneur, on veut toi. Nous te voulons, Seigneur Dieu. Nous te voulons, Seigneur Dieu. Nous voulons ta gloire. Nous voulons accueillir ta gloire aujourd'hui même, Seigneur Dieu. Nous voulons accueillir aujourd'hui même, Seigneur, ta gloire dans cette place. Aujourd'hui même, Seigneur Dieu, on rejette la crainte des hommes. Seigneur Dieu, on rejette le péché, on rejette notre volonté. Et on dit aujourd'hui, on se soumet à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est toi qu'on veut. C'est tes vêtements qu'on veut, tes vêtements blancs, ton onction qui augmente sur nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur, on dit qu'on est prêt à payer le prix. Je suis prêt à payer le prix, Seigneur Dieu. Je suis prêt à payer le prix, Seigneur Dieu. Je suis prêt à payer le prix. Augmente, Seigneur Dieu, aujourd'hui même, l'onction sur ma vie, sur l'onction de tous ceux dans cette maison. Seigneur Dieu, augmente ton onction, Seigneur Dieu, sur chaque vie, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, je prie maintenant que ton onction augmente, Seigneur Dieu. Comme on avance, Seigneur Dieu, dans ce fleuve de ton esprit, Seigneur Dieu, on dit qu'on veut plus de toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Dieu, on veut nager avec toi dans cette rivière de ton onction, dans cette rivière de ta présence, Seigneur Dieu. On enlève tous les vêtements, Seigneur Dieu, qui n'ont pas rapport, Seigneur Dieu, dans ce fleuve. Seigneur, on veut juste être vêtu de ton onction, vêtu de ta lumière, de ta gloire, Seigneur Dieu. On accepte aujourd'hui d'être différent. On accepte, Seigneur Dieu, d'être différent, Seigneur Jésus. Nous acceptons aujourd'hui d'être revêtus de toi, Seigneur Dieu. Quand les gens nous voient, Seigneur, les gens te voient, Seigneur Dieu. C'est notre prière aujourd'hui, que les gens puissent te voir à travers nos vies, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée solennelle devant toi, Seigneur, où on décide aujourd'hui, Seigneur, on renouvelle cet engagement à vivre dans la crainte de ton nom. Seigneur, on veut que ton esprit nous parle. On veut, Seigneur Dieu, que ton esprit nous révèle les choses dans nos vies pour nous protéger, pour nous garder, Seigneur Dieu, pour nous protéger et nous garder toujours sur le chemin de la bénédiction, le chemin avec toi. Et Seigneur, comme ce message circule maintenant à travers les nations, Seigneur Dieu, je te remercie pour cette épouse qui se prépare, pour cette épouse, Seigneur Dieu, qui dit oui à ce message, pour notre esprit qui se réjouit, que notre esprit se réjouit et que notre chair meure. Nous mourrons à la chair. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, que le peuple de Dieu, en accord avec ses prières, puisse maintenant le louer parce qu'il reçoit aujourd'hui votre prière. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ton amour pour nous.
On veut te remercier pour ce temps qu'on a pu avoir dans ta présence. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Le peuple de Dieu dit amen, amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Amen. Restons toujours avec lui. Demeurons sensibles à sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.